9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Le nouveau chancelier Olaf Scholz doit succéder à Angela Merkel cette semaine. C'est le moment de s'intéresser au contrat que viennent de négocier les trois parties de la coalition au pouvoir. Tout est dedans, comme va nous l'expliquer Hans Stark. Il est mon premier invité ce matin. Je recevrai ensuite l'historien Bruno Fulini qui publie un petit dictionnaire des injures politiques de 1789 à nos jours où l'on s'aperçoit que la politique s'est beaucoup adoucie avec le temps, c'était bien plus violent autrefois. Et l'on terminera l'émission avec une artiste plasticienne, Eva Jospin, qui est devenue la coqueluche de la presse.
Europe 1.
Bonjour Hans Stark.
Bonjour.
Vous êtes professeur de civilisation allemande contemporaine à la Sorbonne, conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Olaf Scholz s'apprête à succéder à Angela Merkel à la tête de l'Allemagne. Les sociodémocrates, les libéraux et les verts, que l'on appelle en Allemagne la coalition feu tricolore, rouge, orange, vert, j'imagine, a réussi à négocier un contrat de coalition, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est une tradition allemande, hein. Il fait 177 pages, ça paraît beaucoup.
Alors c'est un contrat qui en effet est devenu une tradition en Allemagne, mais depuis 1998 seulement. Donc ce n'est pas depuis le début de la République fédérale. Donc c'est l'ancien chancelier Schröder qui avait instauré ça. Pourquoi ? Parce qu'il était à la tête en 1998 d'une nouvelle coalition atypique entre sociodémocrates et verts. Et ils étaient tellement peu sûrs de pouvoir tenir tout au long de la législature qu'ils se sont dit « il nous faut un contrat pour savoir où on va ». Et donc du coup ça s'est après poursuivi et tous les autres gouvernements de coalition ont fait pareil. Et là maintenant je pense qu'on ajoute couche sur couche à chaque fois qu'il y a eu des élections, étant donné que cette fois-ci nous sommes dans une coalition à trois partis, c'est entièrement nouveau, on n'a jamais vu ça. Avec en plus une logique, là encore, presque de grande coalition, droite-gauche. Il ne faut pas oublier que les libéraux, ce n'est pas un parti centriste, c'est un parti de droite, notamment sur les questions économiques et monétaires. Et donc, pour assurer que ça va tenir, il fallait ce contrat.
Le SPD, les sociodémocrates, c'est un vrai parti de gauche, au sens où les Français l'entendent
Peut-être pas. Pour un parti au gouvernement de gauche à la française, oui. Pour un parti de l'opposition, certainement pas. Bon, alors voilà, il y a un peu les deux. Au sein du SPD, nous avons deux courants. Un courant vraiment de gauche et un courant beaucoup plus centriste. Et c'est ce dernier qui est maintenant le vent en poupe parce que sa figure de proue, c'est Olaf Scholz. Et donc, c'est un centriste de gauche affirmé. Et dans la mesure où il a sorti le SPD de ce trou des 12-13% où ils étaient dans les sondages pendant très, très, très longtemps, pour arriver à 25, il a commis un tel miracle que maintenant la gauche du parti, elle est à plat, ils sont à genoux en pleine admiration devant Olaf Scholz.
Alors dans ce contrat figure la légalisation du cannabis, il va être légalisé, hein, il pourrait être vendu aux adultes à des fins récréatives, hein, pas seulement grâce à ses vertus thérapeutiques, non, pour s'amuser dans des magasins agréés. Comment vous expliquez ça? La classe politique allemande est prête à faire ce pas alors qu'en France, on ne peut même pas en débattre.
Écoutez, la droite est plutôt pas pour, hein, donc c'est franchement, il n'y a donc pas un consensus national autour du juin. On n'est pas encore arrivé à ce stade. La question de savoir, un, est-ce qu'on reconnaît que beaucoup de gens consomment du cannabis? La réponse est évidemment oui. La deuxième question est de savoir qu'est-ce que les gens consomment? Et il y a de plus en plus de saleté au niveau, à l'intérieur donc, du produit du cannabis. Donc l'idée est non seulement de permettre aux Allemands de se réjouir, enfin de profiter de leur vie en toute légalité, entre guillemets, mais aussi de consommer quelque chose, nous sommes avec des verres, s'il vous plaît, qui ne soient pas trop mauvais pour la santé.
Oui, donc de contrôler...
De contrôler exactement la substance, étant donné que les taux de THC à l'intérieur du cannabis n'ont fait qu'exploser ces dernières années, que l'Allemagne s'est proche des Pays-Bas où on a donc fait pousser de l'herbe qui n'est plus une drogue douce, mais une drogue qu'on peut qualifier de dure. Et donc forcément, je pense qu'ils vont aussi jouer un peu sur le contenu du cannabis pour faire redescendre un tout petit peu tout ça. Mais c'est à titre expérimental. Donc ils vont faire le point dans 4 ans. Il n'est pas du tout sûr que ça va maintenant s'inscrire dans un long terme. Donc on verra le résultat. L'essentiel, je ne veux pas être trop long là-dessus, on ne veut pas que non plus que l'Allemagne ne veut pas devenir un narco-État.
Non
mais
pas.
Attendez, c'est ce qui arrive aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, c'est arrivé. Donc, la légalisation pratiquement, enfin, de fait, aux Pays-Bas, a transformé ce dernier en un pays où on vend de tout au niveau des drogues et c'est devenu un vrai problème. Donc, ça veut dire que les Allemands sont quand même conscients des risques qui peuvent exister à ce niveau-là.
Alors, on parle déjà de répartition des postes hein, aux libéraux, la justice, le ministère des Finances, aux verts, le ministère de l'économie, du climat, de l'environnement, la culture, les affaires étrangères, au SPD, la défense, l'intérieur, la santé. C'est le libéral Christian Lindner qui a obtenu le très convoité ministère des Finances. Il a imposé au SPD et aux écologistes un certain nombre de lignes jaunes à ne pas dépasser, sur l'endettement notamment, sur le pacte de stabilité européen, la fameuse règle des 3% du PIB, que nous considérons, nous les Français, comme obsolète, risque de se repointer rapidement.
Ah ben, elle n'est pas si obsolète que ça. Et surtout, il n'y a pas que l'Allemagne qui est en faveur du respect de ce critère. Ensuite, ce qu'on appelle en Allemagne le frein à la dette, donc, il est inscrit dans la Constitution. Il faudrait une majorité des deux tiers des députés pour renverser cette règle et pour revenir à autre chose et le remettre en question. Donc, de toute façon, quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas décider à eux seuls, enfin, les dirigeants de la future coalition, d'en finir tant qu'ils n'ont pas le soutien de l'opposition chrétien-démocrate. Et là, c'est évidemment complètement exclu. Oui. Donc, on va continuer à enquiquiner les pays du Sud de l'Union européenne avec le respect des formules critères.
On fait une pause en Stark, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Hans Stark, qui est professeur de civilisation allemande contemporaine à la Sorbonne et conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI. On continue de feuilleter, si je puis dire, les 177 pages du contrat de coalition des trois partis qui vont se retrouver au pouvoir en Allemagne, hein, le SPD, les Verts et le Parti libéral. C'est Olaf Scholz donc, qui sera le nouveau chancelier. Normalement, c'est cette semaine qu'il va succéder à Angela Merkel. Le contrat prévoit de sortir du charbon dès 2030, soit 8 ans de plus tôt que prévu, et que les énergies renouvelables représentent 80% de la production d'électricité d'ici là, contre seulement 45% aujourd'hui. Est-ce que c'est possible sans le nucléaire, puisqu'il est diabolisé en Allemagne, au grand dam de la France, est-ce que c'est possible ?
On verra. D'abord, l'objectif de 2030 est marqué à côté, si c'est possible. D'accord ? Donc, c'est pas une date butoir. C'est dans la mesure du possible. D'ailleurs, les Verts ont beaucoup critiqué cette demi-phrase en disant que non, il fallait vraiment dire 2030, c'est 2030 et point bas. Non. Donc, c'est 2030 si c'est possible. Sinon, ce sera 2038. Donc, on est quand même sur la trajectoire d'une sortie du charbon et c'est nécessaire. Les Allemands considèrent qu'ils ne peuvent atteindre les buts en termes de lutte contre le changement climatique et surtout la neutralité au niveau du CO2 que donc la décarbonation de l'industrie allemande que s'il passe en effet à 80% de sources énergétiques venant du renouvelable. Ce qui veut dire qu'il y aura une offensive énorme sur les éoliennes
oui,
et des champs entiers.
Ils vont lui consacrer 2% du territoire de l'Allemagne.
Oui, 3% des terres, ça fait beaucoup. Et donc il faut évidemment, quand vous posez la question, est-ce que c'est possible, il y aura des obstacles. Donc des obstacles divers, énormément, parce que ça va être un problème pour la biodiversité. Les éoliennes sont néfastes pour la biodiversité, donc il y aura même des vers qui vont dire attention, c'est dangereux. Il y aura des problèmes évidemment sur le plan local, il y aura des résistances parce qu'un tel ne voudrait pas avoir une éolienne dans son jardin, mais plutôt 5 km plus loin, le même problème va se poser. Bref, ça va être très compliqué. En plus, c'est une énergie, tout le monde le sait, qu'on n'arrive pas à stocker, donc les flux sont complètement variables, ce qui veut dire, et ça, c'est vraiment le summum, finalement, des contradictions allemandes, qu'il y aura des moments où l'Allemagne va importer de l'énergie, y compris nucléaire. Quelle horreur ! Nucléaire de la France ! Donc, parce qu'on sera forcément dépendant des importations d'énergie au niveau allemand. Mais l'objectif est là. Alors, que ce soit en 2030 ou en 2040, en tout cas, on va clairement vers un mix énergétique de 80% de renouvelables en Allemagne. C'est sûr et certain.
Le ministère des Affaires étrangères revient pour la première fois à une femme, jeune en plus, elle a 40 ans, elle est membre des Verts et elle n'a jamais été ministre, c'est Annalena Baerbock. Ils veulent une politique étrangère plus morale.
Oui, et c'est peut-être nécessaire. Et c'est, oui, enfin aussi plus féminine par ailleurs. Donc il y a plusieurs expressions qui renvoient évidemment au... à l'idéologie verte. Il est vrai que l'Allemagne a été critiquée, et pas qu'une fois, pour avoir finalement fait le dos rond face à la Chine, pour avoir montré peut-être un peu trop de compréhension à l'égard des positions russes, même si dans le contexte actuel, on a besoin aussi des gens qui font l'intermédiaire entre des positions dures vis-à-vis de la Russie et d'autres qui prônent plutôt un rapprochement. Donc l'Allemagne est dans cette logique-là, mais la critique porte surtout sur l'attitude vis-à-vis de la Chine, où pour des raisons franchement passement commerciales, on a passé sous silence évidemment les violations des droits de l'homme, l'expansionnisme chinois en Asie de l'Est, sa présence maintenant quand même très, très contestée sur les marchés européens à travers la route de la soie, et j'en passe. Donc, dans ce contrat de coalition, on se fixe un objectif, à savoir défendre les droits de l'homme partout où c'est possible. Est-ce que dans la réalité, on va y arriver? On verra.
Sur la défense, l'Allemagne toujours aussi atlantiste?
Toujours aussi atlantiste, et en même temps, c'est quand même le pays qui freine le plus lorsqu'il s'agit de partager le fardeau à l'intérieur de l'Alliance Atlantique.
Donc,
et pour envoyer aussi des soldats de la Bundeswehr dans des opérations extérieures. Donc, c'est à la fois le pays le plus atlantiste qui soit et le plus anti-atlantiste en même temps. Donc, ça, c'est une des contradictions de la politique de défense de l'Allemagne. La nouvelle, je pense, qui va rassurer pas mal les partenaires, c'est que l'Allemagne continue à contribuer à la dissuasion nucléaire. À un moment donné, ils avaient mis en question le remplacement des Tornados, des avions de chasse allemands qui portent des armements nucléaires américains, des bombes nucléaires, même qui appartiennent aux États-Unis. Mais bon, les transports sont allemands, en disant on n'en veut plus. Dans ce cas-là, on aurait eu vraiment une dénucléarisation de l'Allemagne. Pardon. Donc non, finalement, c'est prévu. Le contrat de coalition prévoit le remplacement de ces Tornados, donc de ces avions-là, ce qui est nécessaire. En revanche, là où l'Allemagne va beaucoup freiner, c'est au niveau des exportations d'armement, et ça va évidemment avoir un impact sur la défense européenne et sur la coopération en matière d'industrie de défense européenne, parce qu'on sait que notre marché à nous seuls en Europe ne permet pas de faire vraiment émerger une industrie de défense digne de ce nom, et donc on est dépendant de ces exportations, d'où la visite d'Emmanuel Macron actuellement aux Émirats Arabes Unis par exemple. Bref, on n'a pas du tout la même logique côté allemand, côté français sur ces questions, et là il va y avoir des problèmes en franco-allemand.
Olaf Scholz, il est comment ? Le nouveau chancelier, son nom va désormais remplir nos journaux. Comment est-il ?
Il ressemble beaucoup à Angela Merkel. D'ailleurs, il a joué là-dessus. Et d'ailleurs, c'était même sa stratégie. On sait qu'en Allemagne, on aime bien réélire les sortants. C'est peut-être atypique par rapport à d'autres pays. Scholz, il a promis la continuité de la politique de Merkel dans le sens de la stabilité, qui est le maître mot. Bon, il a remplacé stabilité par respect. Respect pour les couches populaires, respect pour un tel, pour tout le monde, pour les minorités, et j'en passe. Donc, il a ce côté rassurant, très centriste, bon, c'est plus centre-gauche que centre-droite, mais malgré tout très centriste, et qui est à tel point dans la continuité de Merkel qu'on dit que finalement Merkel n'est pas si mécontente que cela, que son successeur soit Scholz, un social-démocrate, et non pas quelqu'un de son propre parti. Donc il y aura une continuité du style de Merkel, anti-bling-bling, tout à fait en plein dans les dossiers, une parfaite maîtrise aussi du contenu de dossier, ne pas chercher le paraître mais plutôt l'être, et donc de faire des choses. Je pense que Scholz est quelqu'un avec lequel on va pouvoir travailler, et surtout Olaf Scholz est aussi quelqu'un qui ne prévoit pas cette coalition comme une transition entre deux gouvernements différent. Il veut l'ancrer dans la longue durée. Donc, il est parti pour faire deux mandats. Est-ce qu'il va arriver dans 4 ans ? C'est autre chose. Il y aura des élections. Mais en tout cas, dans sa logique, on n'est pas du tout dans un cas de figure, je dirais, d'accident de parcours dû aux élections de septembre dernier, mais plutôt dans une trajectoire longue.
Merci Hans Stark. On se retrouve juste après une pause avec l'historien Bruno Fulini, qui publie un petit dictionnaire des injures politiques. C'est une tradition française, il y a la même en Allemagne.
Oui.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Bruno Fellini.
Bonjour.
Vous êtes historien et c'est sous votre direction que paraît aux éditions du Rocher un petit dictionnaire des injures politiques qui va de la Révolution jusqu'à nos jours. Un travail riche et foisonnant. Vous avez dû vous amuser en allant chercher tout ça. Vous êtes nombreux, remarquez.
Oui, c'est-à-dire qu'au total, il a fallu se mettre à 19 auteurs, des historiens, des journalistes pour couvrir toute la période. L'idée, c'était d'avoir un panorama des injures politiques de 1789 à nos jours, à la fois les grandes injures historiques, les injures un peu oubliées, et puis celles qui ont fait l'actualité la plus récente.
C'est quoi une injure ? Où ça commence ?
Alors, on a une définition qui est dans la loi, et en particulier dans la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui est très bien, puisque l'injure, nous dit la loi, est toute expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. C'est-à-dire que c'est une image, c'est une invective, c'est un mot méchant, mais qui ne vous accuse pas de quelque chose. C'est ce qui distingue l'injure de la diffamation. C'est une méchanceté, c'est...
Gratuit.
C'est gratuit, c'est injure. Un jeu de langage, finalement, ou un écart de langage. En latin, injuria, c'est ce qui va contre le droit, ce qui est sans droit, ce qui est totalement injuste d'un certain point de vue, et délicieux parce que injuste est gratuit et purement méchant.
Pas forcément injuste, hein. On peut être d'accord avec certaines d'entre elles, mais on voit surtout, quand on lit ce petit dictionnaire, à quel point nos mœurs se sont considérablement adoucies. On s'injuriait beaucoup plus cruellement autrefois, avec une liberté de ton qui est complètement sorti de nos mœurs. On ne supporterait plus aujourd'hui ce que l'on s'infligeait jadis.
Oui, parce que au moment de la Révolution française, pendant tout le 19e siècle, au début du 20e siècle encore, il y a une littérature pamphlétaire. Et donc, quand on fait de la politique, on est aussi un styliste et on s'envoie des méchancetés invraisemblables. Et certaines injures vont jusqu'à l'appel au meurtre, qui aujourd'hui, évidemment, irait droit devant les tribunaux.
Mais sans aller jusqu'à l'appel au meurtre, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on porterait plainte immédiatement sur tout ça. Ça ne revenait pas à l'esprit. À l'époque, aujourd'hui, on s'estimerait, puis on ne serait pas le seul. D'ailleurs, toute la classe politique se clamerait son indignation.
Oui, c'est vrai. Alors d'abord, pendant longtemps, l'injure était contrebalancée par la perspective du duel. Donc on réfléchissait quand même à deux fois avant d'insulter les bons escrimeurs, les bons tireurs, etc. Aujourd'hui, on a plus de l'empathie pour les victimes. Et donc aujourd'hui, ce qui est très bien, c'est pas du tout d'insulter, c'est d'être insulté. Et si par bonheur vous êtes insulté, alors tout de suite, il faut évidemment vous plaindre, éventuellement saisir la justice, vous répandre dans les médias. En fait, c'est bien d'être insulté en politique, d'abord parce que ça veut dire qu'on existe, hein, qu'on est considéré par l'adversaire comme suffisamment important pour être désigné à la vindicte. Et puis, eh ben, ça donne l'occasion en plus de se plaindre et effectivement d'essayer d'apitoyer finalement l'opinion sur son sort.
Encore plus troublant, à l'époque, on le faisait à visage découvert. Hein. On insultait l'autre à la chambre, carrément, ou bien dans le journal, et on signait l'article dans lequel on insultait son adversaire. Aujourd'hui, c'est plus à fleur et moucheté. Les injures sont rapportées par le canard enchaîné. On vous les attribue, vous pouvez toujours dire « Non, non, j'ai jamais dit ça ».
Oui, alors sinon, il y a évidemment les petits tweets, mais ce sont plutôt des pics, c'est plutôt gentil. Il faut voir que, par exemple, en pleine affaire Dreyfus, on va traiter l'adversaire de rat, de cloporte. Quelqu'un comme Clémenceau s'est fait traîner dans la boue. On disait qu'il était payé par l'Angleterre. C'était le baronnet des guichets de Londres. Dans d'autres cas, on accusait les gens de phrases sexuelles délirantes. Bon, quelqu'un comme Léon Blum, par exemple, qui était assez raffiné, maniéré, on le féminisait. Ça devenait, chez ses adversaires royalistes, Mamselle Blum, la Fifi Blum. Comme il était juif, c'était complété d'antisémitisme. Donc chez Léon Daudet, ça donnait la petite ghetto. Parfois, il était transformé en animal. C'était le lévrier hébreu, la jument palestinienne et j'en passe au moment du Front Populaire. Donc vous voyez qu'on allait très très loin dans l'invective. C'est des choses qui sont impensables aujourd'hui.
Vous expliquez bien que dans ces joutes oratoires, on doit humilier l'insulté. Hein, et ça engage son auteur. Au fond, ça le valorise. C'est censé montrer sa supériorité.
Oui, il y a a une dimension réflexive dans l'injure, c'est-à-dire que si vous traitez quelqu'un d'escroc ou de voleur, ça veut dire que vous, vous êtes honnête. Si vous traitez quelqu'un d'imbécile, ça veut dire que vous, vous êtes beaucoup plus intelligent que lui. Alors, le problème, c'est que ça ne marche pas toujours. C'est-à-dire que il y a des personnages qui se sont risqués à insulter un Jaurès, un Mitterrand, qui leur ont dit « Mais monsieur, vous ne pouvez pas m'insulter, n'insulte pas qui veut. » Vous voyez, il faut faire attention à qui on attaque aussi, compte tenu de ce que l'on est soi-même sur l'échiquier politique.
François Bayrou, par exemple, a été beaucoup attaqué. On retrouve dans votre petit dictionnaire ce que lui inflige Ségolène Royal, on est en 2007, et François Bayrou avait refusé qu'elle vienne chez lui pour discuter, et elle dit « Il m'a fait l'impression de l'amant qui craint la panne ».
Qui craint la panne, oui. Donc vous voyez, on est toujours sur quelque chose d'un peu biologique, là, un peu sexuel et d'un peu dépréciatif, effectivement. François Bayrou peut aussi avoir la dent dure. Borloo, par exemple, il avait dit « Borloo, ça s'écrit B-O-R-L et double zéro ». Donc voilà, ça fait partie de ces quelques hommes politiques.
Jacques Chirac en a fait souvent les frais. Hein. C'est fou ce qu'il a pu être méprisé, surtout dans son propre camp. Et vous en citez une que je trouve formidable, après la dissolution ratée de 1997, qui va provoquer la cohabitation avec Lionel Jospin, Patrick Devedjian déclare « On était dans un appartement avec une fuite de gaz. Chirac a craqué une allumette pour y voir plus clair. »
Voilà. Là, c'est assez typique des injures, je dirais, modernes, qui sont plutôt moqueuses, qui sont plus des mots d'humoristes. Si on remonte un peu dans le temps, l'ex-conseillère de Jacques Chirac, Marie-France Garraud, qui avait la dent dure, a eu cette phrase terrible « Je croyais Chirac du marbre dont on fait les statues, il est de la faïence dont on fait les bidets. » Là, c'est cinglant. Et les belles injures sont aussi des injures dépourvues de toute grossièreté. Dans un beau français, des belles phrases équilibrées, pas de grossièreté, mais quelque chose d'extrêmement humiliant.
Oui. Les mots sont des armes hein, en politique. On fait une pause, Bruno Fellini. On se retrouve juste après. On continue avec d'autres exemples.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Dans votre petit dictionnaire des injures politiques, Bruno Fellini, on voit que l'animalisation, ça marche très bien. On se traite de chacal, de crotal, de vipère lubrique, de hyène, de limande apeurée. Ça, c'est Nicolas Sarkozy parlant de Michel Barnier. Il y a beaucoup de scatologie aussi. On se traite d'excréments, de caca, pâtes. Le registre de la traîtrise fonctionne beaucoup. On se traite beaucoup de collabos, d'agents du GPU quand on est communiste, d'idiots utiles, des islamistes. L'idée du traître est là en permanence. Hein.
Oui, et alors il y a même parfois une surdétermination. Si vous traitez quelqu'un de caméléon, c'est à la fois un animal répugnant et puis quelqu'un qui change de couleur, donc un traître. C'est-à-dire que tout le génie de l'insulteur va être de trouver la métaphore, l'image qui est la plus accablante pour l'adversaire, qui le ridiculise. Le point commun de toutes les injures, c'est qu'elles vous déshumanisent en vous animalisant, en vous réifiant, c'est-à-dire en vous transformant en objet, un bonnet de nuit par exemple. Elles vous corporalise, vous n'allez plus être qu'un organe, un ventre, un pied, vous n'allez plus être que... Alors évidemment, vous parliez de scatologie, lorsque Léon Daudet compare Aristide Briand à un excrément, c'est à la fois une chose inanimée et puis un sous-produit de l'organisme. Donc là, il y a une double injure en quelque sorte. Et on a comme cela des virtuoses de l'injure qui vont arriver, par exemple un communiste qui avait traité le président Paul Reynaud de microbe dégénéré. Microbe, c'est déjà une injure, mais un microbe dégénéré, franchement.
Il faut dire que Paul Reynaud n'était pas très grand, hein, c'est aussi pour ça. Adolphe Thiers aussi, on a eu de tous les côtés, le nain grotesque, le crapaud venimeux, le serpent à lunettes. Ce qui est drôle chez Thiers, en tout cas dans votre dictionnaire, c'est qu'on ne l'attaque pas sur sa vie privée, ça reste assez français, hein, ça. On n'attaque pas sur la vie privée, parce qu'il avait pourtant épousé la fille de sa maîtresse, il couchait aussi avec sa sœur, et il vivait avec les trois. Bien qu'on les surnommait les trois moitié de Monsieur Thiers.
C'est mignon, mais c'est très spirituel. En fait.
Mais c'est vrai que ça reste quand même, on n'attaque pas véritablement sur la vie privée. Hein.
Non, il y avait quand même une certaine liberté sexuelle au XVIIIe, XIXe siècle. Et puis, au fond, pour attaquer sur ce genre de terrain, il faudrait être soi-même irréprochable. C'est toujours le côté réflexif de l'injure. Donc, si on est dans la même situation que l'adversaire, c'est dangereux de l'attaquer.
Il y a un côté impitoyable chez certains. Je pense à Georges Clémenceau, par exemple. Alors lui, dont les injures sont peut-être les plus meurtrières. Hein. À la mort du président Félix Faure, il déclare « En entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui ». Il parle quand même du président de la République qui vient de mourir. Harakiri Hebdo a été interdit pour beaucoup moins que ça, la mort du général de Gaulle. Balle tragique à Colombey, un mort. C'était tout doux à côté de « En entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui ».
Oui, mais remarquons que c'est une phrase parfaite, très élégante, très belle, sans la moindre aspérité, sans la moindre grossièreté. C'est un petit chef-d'œuvre en matière d'injures, et qui plus est devant le cadavre encore chaud du président de la République. Clémenceau avait cette capacité-là, un culot énorme aussi. À un moment, un président du Sénat qui était candidat à l'élection présidentielle, qui se plaignait devant lui et devant d'autres élus radicaux en disant « Mais enfin, vous dites partout que je suis un imbécile, je ne suis tout de même pas plus bête qu'un autre. » Et Clémenceau tourne la tête et dit « Quel autre ?» C'est cinglant, absolument cinglant, en deux mots.
Vous dites qu'il y a une véritable dissymétrie dans la joute oratoire, à savoir que les grands insultés ne sont pas les grands insulteurs. Les grands insultés, c'est Jaurès, c'est Briand, c'est Blum, et on ne les retrouve pas parmi les plus cruels.
Non, ils insultent assez peu. Blum va traiter une fois Charles Maurras de brute véreuse, mais c'est vraiment peu de choses par rapport à tout ce qu'il reçoit.
Infligé,
voilà,
oui.
Exactement. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est quelqu'un qui n'insulte pas ses adversaires non plus, alors qu'il a été beaucoup insulté. On trouverait trois exceptions de personnalités copieusement insultées et qui elles-mêmes savaient manier le fer, en quelque sorte. C'est Clémenceau, déjà nommé, c'est le général de Gaulle, et c'est François Mitterrand, qui avait la dent dure lui aussi.
En fait, il faut de l'humour quand on injurie en politique. L'humour, c'est capital. Si on n'est pas drôle, ça ne marche pas. Mais de l'humour, ça peut aller jusqu'au cri de guerre. Et là, c'est beaucoup plus violent. Au fond, il s'agit toujours de tuer symboliquement l'adversaire.
Oui, et même s'il est déjà mort. Je pense à Aristide Briand après 1932, donc après sa mort. Et Maurras évoque donc ce traître à son pays, victime d'une injuste mort naturelle. C'est suggéré qu'il aurait aimé le faire fusiller, en fait. Vous voyez, effectivement, on attaque, on découpe, on décapite, on hache-menu l'adversaire symboliquement par des paroles. C'est là aussi que l'injure est intéressante. Est-ce que l'injure annonce la violence physique, auquel cas elle est dangereuse, auquel cas c'est en fait un appel au meurtre? Ou est-ce qu'au contraire, l'injure est un dérivatif, un symbole? Et il y a une phrase célèbre de Freud qui prête à l'homme qui lança le premier une injure au lieu d'une pierre, l'invention de la civilisation. C'est-à-dire que des fois, dire une méchanceté sur quelqu'un, ça vous soulage un petit peu le cœur et ça vous évite l'affrontement physique.
Il y a tout de même une conclusion à laquelle on peut venir quand on lit votre petit dictionnaire des injures politiques, c'est qu'il n'y a pas d'autre métier qui engendre une compétition aussi féroce, hein, même entre gens de la même famille politique.
Surtout entre gens de la même famille politique. Les injures les plus méchantes sont souvent à l'intérieur d'un même parti. Mais surtout, l'injure politique, c'est par nature une injure publique. Si les mots sont des armes, c'est pas seulement d'un homme politique à un autre, c'est deux hommes politiques qui s'affrontent devant le peuple, devant les électeurs. Et au fond, il y aura toujours une prime à celui qui aura terrassé l'adversaire par la petite phrase qui tue. Et nous sommes tous relativement avides de ces petites phrases, il ne faut pas être hypocrite. C'est pourquoi, au fond, dans tous les métiers, il y a des gens qui maugréent, des gens qui insultent leurs rivaux et leurs concurrents, mais souvent, c'est à mi-voix, ça relève de l'injure privée. En politique, l'injure publique fait partie du jeu, du moment qu'elle ne franchit pas certaines bornes qui sont punissables pénalement aujourd'hui.
Et des petites phrases, vous en avez collecté des centaines dans ce petit dictionnaire des injures politiques qui vient de paraître donc sous votre direction, Bruno Fulini, aux éditions du Rocher. Merci.
Merci.
On se retrouve dans un instant avec Eva Jospin.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Eva Jospin.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes l'artiste plasticienne à la mode, portrait coup sur coup dans Le Monde et Libération et 6 pages dans l'hebdomadaire Elle. Il faut dire que vous avez une exposition au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris et on vous retrouve également au Musée des Impressionnistes à Giverny dans l'expo Eva Jospin de Rome à Giverny. D'abord, est-ce que ça vous angoisse tout à coup qu'on parle autant de vous ?
Bon, ça fait plaisir, non mais ça fait plaisir. Après, c'est un moment, donc on verra ce qui se passe ensuite. Artistes sont toujours inquiets de pouvoir continuer le plus longtemps possible à faire leur travail. Donc on n'est pas si attentif au moment, mais plutôt à la durée.
Alors justement, est-ce que vous pourriez décrire pour nos auditeurs votre travail, ceux qui ne vous connaîtraient pas, ou du moins qui ne connaîtraient pas les forêts en carton qui vous ont rendu célèbre dans le milieu de l'art ? Qu'est-ce que vous leur diriez ?
Ben, je dirais que ce sont des œuvres qu'on pourrait qualifier de haut relief, parce que le bas-relief, c'est vraiment une sculpture dans du modelé. Le haut relief fonctionne sur la joue, la couche, donc je pars du fond, et puis je construis comme ça la forêt sur plusieurs couches. Et je dirais que ce sont des œuvres de la lisière, parce qu'au fond, on veut y pénétrer, mais on reste au seuil et au bord. Et donc, on peut aussi se projeter à l'intérieur et imaginer des rencontres bonnes ou mauvaises.
Vos forêts en carton n'ont pas toujours plu. Hein. On ne les trouvait pas assez conceptuelles à une époque.
Oui, alors je crois qu'en fait, heureusement, elles ont plu à certains tout de suite. Sinon, je n'aurais pas pu les montrer et puis avoir l'occasion de m'exprimer dans mon travail. Donc, et puis de toute façon, aucun artiste ne fait l'unanimité, heureusement.
Mais vous voyez bien ce que je veux dire, quand on ne les trouvait pas assez conceptuels, il y a un côté figuratif là-dedans qui devait en énerver un certain nombre.
Je crois surtout qu'en fait, on s'était habitué à ce qu'il y ait une forme de répétition plutôt dans les œuvres abstraites. Et c'est vrai que moi, je reviens sur mon motif, souvent, même s'il évolue et que ma promenade s'agrandit, heureusement. Et je pense qu'on n'avait plus l'habitude de ça. C'est vrai que le geste qui se répète, l'obsession comme ça, elle a été beaucoup plus arpentée par les artistes abstraits au XXe siècle, plutôt que les artistes figuratifs. Alors peut-être qu'il y avait une petit étonnement.
De même, on vous reprochait le carton. Vous le racontez dans Le Monde. Vous ne venez pas du tiers-monde. On ne comprend pas que vous utilisiez le carton. Vous aurez dit une célèbre galeriste parisienne. J'ai trouvé ça assez drôle.
Oui, c'était un commissaire d'exposition. Mais heureusement, non, mais en réalité, ce sont des anecdotes qui arrivent à peu près à tous les artistes. Parce que quand on montre son travail au début, surtout quand vous n'avez pas encore fait beaucoup de choses, les gens vous critiquent plus facilement. Maintenant, quand je montre mon travail, les gens peut-être pensent exactement la même chose, mais n'osent pas me le dire.
Oui. Est-ce que quelqu'un vous aurait conseillé de mettre des fleurs en plastique pour que ça fasse plus contemporain ?
Oui, c'est vrai, il y avait quelque chose. Je crois qu'au début, c'était déroutant parce qu'il y a dans mon travail une grande manualité. Et je crois qu'au fond, on ne savait pas très bien dans quelle catégorie me ranger parce que certains avait l'impression que ça pouvait être un geste qui se rapprochait de l'art brut, d'autres... Voilà, alors c'était un peu comme ça. Et je crois que si j'ai un lien avec l'art brut, c'est que les artistes de l'art brut sont des artistes qui créent, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances de leur vie.
Et
avec n'importe quel matériau. Et c'est vrai que de ce point de vue, je pense que j'ai un point commun.
Pourquoi le carton ?
Alors, au départ, c'est réellement, comme je viens de parler des artistes de l'art brut, presque une nécessité. C'est-à-dire que j'avais envie de passer à des œuvres bien plus grandes et je voulais avoir une totale liberté dans mon travail. Et c'est vrai qu'on venait d'un moment comme ça, au moment où j'ai été formée. Je suis sortie des Beaux-Arts, je me suis diplômée en 2002, donc ça fait longtemps maintenant. On faisait des grandes... la mode était aux grandes installations, on pouvait faire des immenses néons, des projections et tout ça. Et puis, c'est vrai que quand vous êtes dans un atelier, vous voulez faire un grand néon, il faut un néoniste. Vous voulez faire une grande projection, il faut un projectionniste. Et moi, j'avais envie que le geste soit possible dans toutes les circonstances et que je ne sois pas arrêtée par la question des coûts de production, de comment le mettre en place. Et j'avais envie d'un matériau qui soit l'équivalent à la sculpture du crayon pour l'artiste qui prend un crayon, un papier. C'est disponible, on ne peut pas vous arrêter. Et c'est pour ça, au départ, que j'ai utilisé ce matériau. Et il se trouve que, par la suite, les œuvres que j'ai façonnées avec ce matériau, qui étaient au départ les forêts, puis très vite les grottes, et puis très vite des folies architecturales, sont des œuvres qui, en soi, sont constituées ou de strates ou de feuillures, les anneaux du bois, la géologie. Et la façon même dont est constitué le carton est aussi la façon dont je construis mes œuvres. Donc il y a quelque chose qui s'est doublement collé à moi avec ce matériau.
Et est-ce que ça se conserve bien, le carton ?
Ah ben très bien, vous pouvez mettre ça dehors sous la pluie, aucun problème. Non, je plaisante. Ça se conserve comme les œuvres sur papier, donc il faut...
Il faut y faire attention.
Il faut y faire attention, dans le sens où, en effet, il vaut mieux éviter la pluie ou les dégâts des eaux. Maintenant, il n'y a pas de problème. Enfin, les œuvres sur papier, par exemple, sont plus difficiles à conserver parce que les dessins, au bout d'un moment, s'effacent. Moi, il n'y a pas de problème de ce point de vue, puisque, en fait, c'est une forme. Donc, il n'y a pas de problème d'effacement. Mais puis... voilà. Et par ailleurs, je fais aussi des œuvres qui sont, grâce au moulage maintenant, je peux me servir de mon matériau pour pouvoir faire des œuvres en bronze, en béton, en plâtre. Donc je peux les faire évoluer dans des matériaux un peu plus résistants.
À Giverny, on voit des forêts, mais aussi des grottes, des folies. Ça ressemble à quoi une grotte d'Eva Jospin ?
Ce qui me touche particulièrement, ce sont évidemment les grottes baroques des jardins italiens, mais il y en a eu dans de nombreux pays par la suite, parce qu'il y en avait même une magnifique qui a été détruite, la grotte de Tétis à Versailles, qui n'a pas été conservée, mais qui a été reconstituée par Hubert Robert ensuite. Et ces grottes, ce qui me fascine dedans, c'est que les artistes s'amusent à créer des natures artificielles. Alors on se dit, c'est quand même étrange, pourquoi construire une grotte quand il y a des vraies grottes ? Et justement, pour jouer sur cette question du faux, et quand l'illusion et le faux nous donnent du plaisir et nous font un peu rêver, et en même temps, on se constitue des mondes inquiétants, mais qu'on maîtrise.
Et toujours à Giverny, il y a cette chambre en soie brodée à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure. Alors, de quoi s'agit-il exactement ?
Alors, ce projet, c'est un projet qui était né pendant ma résidence à la Villa Médicis. C'était en 2016.
D'où le titre, hein, de Rome à Giverny.
Voilà, exactement. Et j'avais découvert un palais qui est visitable le samedi matin seulement, qui s'appelle le Palais Colonna. Et dans ce palais, il y a une salle qui s'appelle la salle des broderies. Et tous les murs sont entièrement brodés à la main, à la façon d'une tapisserie, mais justement, c'est brodé. Et ce travail-là m'a complètement fascinée. Et j'ai eu envie d'interpréter mes dessins à l'encre, remplacer le trait de l'encre par le fil, en fait, et par le sens de la trame du fil. Et j'ai gardé ce projet en tête. J'ai collaboré aussi avec une restauratrice de tissus qui était elle aussi pensionnaire à la villa. Donc on a fait des essais de couleurs sur des soies. Mais c'était un projet un peu secret comme ça, jusqu'à ce que je rencontre la directrice artistique de Dior qui s'appelle Maria Grazia Chiuri, à qui j'ai parlé du projet et qui m'a lancé un peu ce défi fou de le faire pour le défilé haute couture. Qui a eu lieu au mois de juillet, et on l'a montré au musée Rodin. Et cette chambre de soie, qui était censée être une petite pièce tapissée de broderies relativement intime, est devenue un décor de 95 mètres de long par 3,50 mètres de haut.
C'est l'avantage de l'industrie du luxe, hein, quand elle fait les yeux doux à un artiste contemporain.
Oui, c'est-à-dire que sur certains projets, ils peuvent avoir la force de frappe des commanditaires de jadis.
Oui, exactement, comme les Médicis.
Ce sont des mécènes d'aujourd'hui, oui, c'est vrai.
Merci Eva Jospin. Donc vous êtes au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris jusqu'au 20 mars 2022. Et de Rome à Giverny, c'est au Musée des Impressionnistes de Giverny jusqu'au 16 janvier, si je ne m'abuse.
C'est bien ça.
Merci.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. Dans quelques instants, vous retrouverez Sonia Babrouk. Bonjour Sonia, quel est le programme ?
Bonjour Frédéric. Notre invité pour le grand rendez-vous sera le ministre Bruno Le Maire. Et pour l'interroger, je serai entourée de Cécile Cornudet et Mathieu Boccoté.
Merci Sonia, bonne émission.
Europe 1.